C'est terminé. Les Blue Jays l'emportent 13-3 sur les Orioles de Baltimore. Donc, quatrième victoire de suite pour les Blue Jays qui balayent donc la série contre Baltimore, la pire équipe de la division Ouest de la Ligue américaine. Une attaque de 19 coups sûrs des Blue Jays. Russell Martin est 0 en 4. C'est le seul joueur qui n'a pas eu de coups sûrs des 9 partants. Et les Red Sox de Boston en fin de 9e tir de l'arrière, 5-2 devant les White Sox de Chicago. Je vous rappelle la victoire de Sébastien Vettel au Grand Prix du Canada sur l'île Notre-Dame cet après-midi. Et Lance Stroll qui a été sorti de la course dès le premier tour, accrochage avec Brendan Hartley, le pilote de l'écurie Toro Rosso. Donc la course de Lance Stroll a duré quelques secondes seulement. Hier soir, l'Impact allait affronter le FC Dallas, et la semaine dernière, Vincent Destouches m'avait demandé ma prédiction, puis je disais, j'avais de la misère en regardant le classement de favoriser l'Impact pour ce match-là. Mais finalement, Vincent, ça n'a pas été, oui, une défaite de 2-0, mais ils n'ont pas été déclassés, me semble, l'Impact hier. Est-ce que j'ai bien vu?
Non, t'as raison, ils n'ont pas été déclassés, mais il reste que, tu sais, il y a les circonstances du match qui fait que Dallas n'a pas eu besoin de forcer son talent. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans le scénario du match et l'impression que l'Impact, finalement, a eu l'initiative dans le jeu, a pu proposer du jeu, justement, avoir des opportunités, parce que Dallas était un petit peu avec le frein à main, parce qu'ils étaient en avance, là. Ils étaient 2-0 après une quinzaine de minutes de jeu sur deux coups du sort, on va dire, parce qu'un but contre son camp, vraiment malencontreux, malheureux de Mathieu
doublement.
Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, un penalty un petit peu litigieux. Alors, en deux temps, trois mouvements, alors qu'on n'avait pas nécessairement raté l'entame de match, l'Impact qui se retrouve en arrière 2-0. Pour Dallas, ça devient facile. Pour l'Impact, ça devient quasiment mission impossible. Mais c'est vrai que derrière, il y a eu des opportunités, qu'on a senti que l'Impact n'était pas si inférieur au FC Dallas dans le contexte que je viens de citer. Mais ils ont été, malgré tout, incapables de marquer un but, de s'offrir peut-être une chance dans ce match, une chance d'espérer, de faire douter l'adversaire. Et puis voilà, c'est quand même ça le principal. C'est bien de proposer un peu de jeu, de se créer des opportunités, mais si on ne les met pas au fond, ça ne sert franchement pas à grand-chose au final.
Et l'Impact débutait le match avec un handicap peut-être imprévu. Enfin, on était peut-être au courant depuis quelques jours chez la direction de l'Impact. Ouais. Nacho Piatti n'a pas joué en raison d'une blessure. Donc, ça partait mal.
Exactement. Là. C'est sûr. C'est sûr que en plus, l'Impact n'a vraiment pas une fiche très reluisante sans Nacho Piatti depuis qu'il s'est amené au club en 2014. Écoute, c'est arrivé presque une vingtaine de fois, puis ils ont perdu, je crois, 13 rencontres sur ce total avec la rencontre d'hier soir. Nacho Piatti qui s'était légèrement blessé à l'entraînement mercredi dernier, qui n'avait pas participé à l'entraînement du lendemain, donc jeudi, le jour où l'Impact devait s'envoler pour le Texas. Et il y avait donc un doute de est-ce qu'il allait faire le voyage ou non. Alors finalement, il était avec l'Impact à Dallas, mais Rémy Garde a jugé qu'il y a un match qui s'en vient très rapidement, là, parce que mercredi, on remet ça au Stade Saputo contre Orlando, a jugé peut-être que si la blessure n'était pas trop grave, ça ne servait à rien de prendre justement des risques, de risquer d'aggraver la blessure de ce joueur si important dans l'effectif, et a donc préféré le préserver en le mettant sur le banc. Ça veut dire qu'il était éventuellement une option. Imagine, Pierre, que l'Impact finalement marque un but, que c'est 2-1, qu'il reste une vingtaine de minutes de jeu, avec peut-être l'opportunité d'aller chercher un point au Texas. Peut-être que Rémy Garde l'aurait fait entrer en jeu, mais ça n'a pas été le cas.
OK, alors c'est aussi bien de garder ses chances pour le match de mercredi. Orlando City en 6e place, est-ce que c'est prenable pour l'Impact?
C'est prenable. Écoute, t'es rendu là, on a quand même 11 défaites en 15 matchs. Hein, donc je pense qu'il faut quand même savoir être humble lorsqu'on est l'Impact de Montréal et lorsqu'on est partisan de l'Impact de Montréal. Je pense que, écoute, la posture, elle est claire. C'est compliqué pour les Montréalais cette saison, du moins dans cette première partie de saison. On verra ce que donnera la suite. Si au moins ce club arrive à remporter des matchs à domicile, peut-être pas tous, parce qu'ils en ont déjà perdu, mais arrive à s'accrocher à ce mince espoir de faire des bons résultats à domicile pour rester pas trop loin de la ligne des séries. Peut-être qu'on se donne une chance sur la fin de partie de saison, mais je te dis ça sans y croire trop. Mais il faut savoir gagner au moins les matchs à domicile. Il le faut. Donc Orlando sort d'une sévère défaite quand même, 5-2 à Vancouver. Donc pas, ça mène pas à Montréal avec une tonne de confiance non plus. C'est une équipe qui, moi, je pense, fera les séries. En tout cas, elle s'est armée pour, a fait une grosse saison morte avec beaucoup d'acquisitions. Alors, c'est pas simple pour le bleu-blanc-noir, mais il y en a aucune qui est simple pour le bleu-blanc-noir. Il n'y en a pas de facile.
Est-ce qu'on en est rendu à aborder les matchs en se disant il faut limiter les dégâts tout simplement le mieux possible?
Écoute, non, je pense que c'est pas, on n'est pas rendu là, on n'a pas jeté la serviette, on n'a pas, non, parce que ça voudrait dire que on a conscience qu'on est dernier, qu'on vaut rien, puis on attend la fin de saison. C'est pas ça côté Montréalais, et on l'a vu d'ailleurs dans un match d'hier, et Rémi Garde le disait à la mi-temps au micro de mon collègue Nicolas Martineau, disait qu'il faisait jeu égal avec le FC Dallas. Alors c'est peut-être son opinion, c'est un point de vue, mais je pense que du point de vue des joueurs, on arrive à voir que on sur un match. On fait plus ou moins jeu égal avec une équipe qui est première dans l'Ouest. Alors ça peut être un motif d'encouragement, de satisfaction, de se dire qu'ils sont parfaitement capables d'aller en gagner des matchs. Mais c'est difficile quand t'as autant de défaites, quand t'as absolument pas de confiance, pas de repères, qu'il n'y a pas beaucoup de rotation, donc des joueurs fatigués, peu de profondeur. Ensuite, le contexte difficile autour du club avec les commentaires du président, de l'entraîneur. Bref, il y a énormément de négatifs qui entourent ce club et qui fait que c'est difficile de sortir la tête de l'eau. Mais est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher des matchs, d'aller accrocher des victoires. Oui, ils l'ont montré la semaine dernière, notamment contre Houston.
OK. Avant de se laisser, Vincent, j'aimerais qu'on prenne 3-4 minutes pour parler de ce qui s'en vient la semaine prochaine, en plus du match de l'Impact mercredi à Montréal, bien sûr. Le lendemain, jeudi, c'est le début de la Coupe du monde de foot, de soccer, du côté de la Russie. Alors là, on parle de d'autres choses. Là. Ça devient excitant pas mal pour les fans.
C'est le gros
là.
Tournoi.
Ouais, oui, bien sûr, évidemment. Et ça se passe en Russie. Et les Russes ont eu toutes sortes de problèmes depuis 6 mois. Ils n'ont pas remporté un match. Est-ce qu'ils pourraient devenir la deuxième équipe depuis l'Afrique du Sud à perdre, en fait, à se faire éliminer dès le premier tour, à domicile?
Oh ben écoute, tu dis ils ont eu toutes sortes de problèmes. C'est vrai, peut-être dans l'organisation, mais s'ils ont eu un coup de chance, ils l'ont eu au bon moment, c'est-à-dire au niveau du tirage au sort, ils se retrouvent dans le groupe A avec notamment l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Alors c'est vrai que les Russes, sportivement, ils n'ont aucune garantie, ils n'ont vraiment pas impressionnant sur ce qu'ils ont montré lors des derniers mois, mais ils ont au moins la chance de se retrouver dans un groupe qui est très prenable. A priori, l'Uruguay est ultra favori de ce groupe. Après, entre l'Égypte, la Russie, l'Arabie Saoudite qui est peut-être un petit peu moins favorisé, je pense qu'il y a matière au moins à se rendre au deuxième tour, en huitième de finale, dans la phase d'élimination directe, et faire en sorte que cette compétition sera une semi-satisfaction pour Vladimir Poutine et compagnie. C'est un mondial qui se passe en Russie. J'imagine que l'équipe locale peut avoir aussi un petit peu d'aide du public et autre genre.
Parce que je disais que la Russie était le premier pays en 84 ans d'histoire à commencer une Coupe du monde à domicile en n'ayant gagné aucun match dans les 6 mois qui précèdent l'événement.
Alors c'est catastrophique.
Ils ont un gros contrat sur les épaules, là.
Ah, clairement, surtout qu'on s'entend que c'est une question d'image également, que normalement, lorsque tu te vois octroyer une Coupe du Monde, c'est l'opportunité de travailler, justement, et c'est un petit peu dans ce mode-là que le Canada, par exemple, se prépare à éventuellement, la décision sera rendue la semaine prochaine, à devenir l'un des pays co-organisateurs de la Coupe du Monde 2026. Si jamais États-Unis, Canada, Mexique obtiennent la Coupe du Monde 2026, ça, c'est un point, c'est un objectif, travailler entre maintenant et cette date, pour bâtir quelque chose, bâtir un programme pour donner une bonne image du pays en termes de soccer. Et là, la Russie, c'est tout l'inverse. C'est vrai que sportivement, ça a été catastrophique. Après, peu importe. Peu importe ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, ce qui importe, c'est d'être bon le jour J dans ce groupe A où il y a des matchs qui sont prenables. Russie, Arabie Saoudite, d'entrée de jeu, a priori, c'est prenable pour les locaux. À eux de jouer maintenant.
OK. On a les favoris habituels, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne qui a gagné en 2014, le Brésil, l'Argentine, on les connaît, là, la France, l'Espagne, le Portugal. Il n'y a pas d'Italie cette année. Est-ce que tu penses que les Italiens s'en sont remis ou si ça va juste tourner un peu plus le fer dans la plaie jeudi quand le tournoi va commencer?
Non, je pense qu'ils s'en sont pas remis. C'est difficile hein, quand on est d'Italie. Ouais, hein. D'être absent d'un tel tournoi, de regarder ça à la télévision. Et je voyais cette semaine que dans la petite Italie à Montréal, il y avait une publicité, notamment pour un café qui faisait sa promotion justement autour des matchs de la Suède, en disant tout le monde n'est pas la Suède, parce que la Suède c'est le pays qui a éliminé l'Italie. Ouais. Alors je pense que les Italiens pourront regarder cette Coupe du Monde avec l'esprit de la vengeance, avec un intérêt particulier pour la Suède et en espérant que cette équipe n'aille pas très loin.
Ok, alors les Italiens vont prendre pour toutes les équipes qui vont affronter la Suède.
Ouais, à mon avis, ça va jouer autour de ça.
Vincent, merci beaucoup. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine au lendemain du match de l'Impact samedi. Je me souviens plus où. Mais on va, ça va me
rendre. C'est mercredi à Orlando, 2 fois de suite à Orlando.
D'accord.
On parle, Pierre.
OK, merci Vincent. Au revoir. Vincent Détouche, notre collaborateur soccer. On parle de la défaite des Alouettes en match pré-saison hier contre les Tigers Cats d'Hamilton avec Bruno Eppel. Au retour de ceci.